Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Hervé Temim.
Bonjour.
Ténor du barreau, défenseur entre autres de Bernard Tapie, Roman Polanski, Gérard Depardieu, Jacques Servier, avocat des puissants, comme vous l'écrivez vous-même, en regrettant de ne pas entendre plus souvent « Ah, Maître Temim, c'est dégueulasse ce qu'on a fait à votre client » au lieu de « Ah, Maître Temim, comment pouvez-vous défendre un tel pourri ?» Vous publiez chez Gallimard, vous l'écrivez ça, hein ?
En me moquant de moi-même.
Vous publiez chez Gallimard « Secret défense » qui aurait pu aussi s'intituler « Éloge du secret » ou « Contre la transparence ». Vous savez que vous n'êtes pas dans l'air du temps, mais vous racontez vos secrets anciens, vos quatre consciences. La discrétion, le secret sont des valeurs que vous placez comme avocat au-dessus de toutes les autres.
Ce sont des valeurs que je place comme avocat, mais aussi à titre personnel, très haut, pratiquement au-dessus de toutes les autres. En tous les cas, comme avocat, c'est une valeur essentielle, cardinale.
C'est le cœur du métier, dites-vous.
Oui, c'est le socle, c'est le cœur. Il n'y a pas de métier d'avocat qui vaille, il n'y a pas de défense qui vaille sans secret absolu. C'est le début de la relation entre quelqu'un qui a besoin d'un avocat et son avocat.
Alors ça va loin, parce que vous racontez... au début du livre, au début de votre carrière aussi, comment vous avez réussi à faire acquitter un homme innocent qui s'accusait à tort pour protéger sa mère sans trahir le secret qu'il vous avait confié. Et un jour aussi, l'un de vos anciens clients vous confie qu'on lui a confié, qu'on lui a fait signer ou qu'il va signer en quelque sorte, qu'on va le payer pour un contrat pour assassiner une personnalité, quelqu'un de connu. Et vous ne dites rien, Hervé Temim.
Ça, c'est un cas de conscience extraordinaire, horrible, que j'ai vécu, parce que c'est une scène absolument surréaliste, qui paraît pas possible, que quelqu'un vienne vous dire, ben voilà, mais je voulais votre avis, j'ai un contrat, je dois exécuter un contrat. Un contrat, ben oui, maître, un contrat. Après notre rendez-vous, je dois aller voir des gens qui me demandent de tuer quelqu'un. Mais je lui dis, bah, attendez, mais monsieur, vous voulez que je vous dise que vous allez tuer quelqu'un ? Non, vous n'allez tuer personne et puis au revoir. Et il me donne le nom de la personne qu'il doit tuer. Horrible. Et là, je suis confronté à un cas de conscience épouvantable parce que j'ai le droit de rien dire, mais si cette personne avait été tuée, le respect du secret m'aurait fait une belle jambe. Alors j'ai appelé Henri Leclerc, c'était il y a plus de 30 ans, mais c'était déjà Henri une espèce de conscience pour nous tous.
Bien sûr, il l'est toujours.
Et il me dit, il l'est toujours, et il me dit, écoute, c'est pas possible. Je dis, bah si c'est vrai. Il me dit, arrête. Je lui dis, bah écoute. Et il me dit, écoute, tu n'as qu'une chose à faire, c'est écrire ce qui s'est passé. Le déposer au bureau du bâtonnier où il y avait à l'époque un horodatage des plis. Et puis, tu ne peux rien dire, Hervé. Je n'ai rien dit.
Mais ce n'est pas votre horodatage qui aurait pu empêcher mort
et comment, tout ça,
ou le meurtre de cette personne.
Comme vous avez raison, c'était tout à fait dérisoire même. Et grâce au ciel... ça ne s'est pas produit, mais j'ai suivi la vie de cette personne avec un intérêt comme vous ne pouvez pas, imaginer.
Là, vous êtes en train de nous dire que le secret de ce qu'on vous avait confié était plus important que la vie de la personne en question ?
Pas du tout. Je suis en train de vous dire que le secret qu'on m'avait confié, qui m'interdisait de révéler quoi que ce soit. J'ajoute, monsieur Cohen, que ce qu'on m'avait révélé était à la fois très inquiétant, mais très, très conditionnel. Hein. C'était, de toute façon, j'aurais violé mon secret, que je n'aurais probablement rien évité, servi à rien, et j'aurais révélé finalement un délit d'intention, ou même un crime d'intention, rien de plus, à supposer que ce qui m'avait été dit était vrai. Mais ça m'a marqué,
oui.
Parce que j'ai respecté le secret, la mort dans l'âme.
Oui. Mais j'ai l'impression d'entendre un prêtre parler du secret de la confession. En tout cas, ce que vous racontez, Hervé Temim, prouve que le secret est le meilleur allié des délinquants et des criminels. Quand vous défendez la famille Leroux dans l'affaire de la disparition de l'héritière du casino de la Méditerranée, Agnès Leroux, vous parvenez à percer le secret de Maurice Agnolet. C'est décisif.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous.
Pourquoi ?
Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que quand j'ai défendu la famille Leroux, je n'ai absolument pas percé le secret de Maurice Agnolet. Non, j'ai réussi à démontrer, me semble-t-il, que sans aucun doute, il était coupable. En revanche, le secret n'est pas l'allié des délinquants et des criminels. Le secret est l'allié de la justice. Vous savez quel est le fondement du secret professionnel dans le métier d'avocat ? Parce que je ne parle pas que du secret professionnel. C'est l'intérêt de la justice. La personne qui vous confie un secret ne peut pas vous délier du secret. Le secret, c'est une obligation pour la avocat. C'est un droit, évidemment, pour la personne qui est défendue, mais c'est quelque chose, c'est une valeur qui défend l'intérêt général de la justice. Le client, vous me demandez de vous défendre, vous ne pouvez pas me délier du secret. c'est quelque chose qui est très largement supérieur à des intérêts particuliers. Et on le comprend fort bien. Pas du tout. Imaginez, votre question est très maligne et très taquine, mais imaginez que je reçoive les confidences d'une victime qui me raconte des détails absolument terrifiants de son intimité. Est-ce que j'ai le droit de violer son secret? Non. Est-ce qu'elle peut m'autoriser à le faire? Non. Quel intérêt je protège en ne le faisant pas? Son intérêt, certes, mais l'intérêt supérieur de la justice.
Quel est donc, Maître Temim, votre rapport à la vérité avec les confidences de vos clients et les secrets que vous possédez?
Mon rapport à la vérité est un rapport extrêmement ambigu, je l'admets, parce que l'avocat n'a pas à rechercher la vérité. Et la plupart des avocats répondent à cette question en disant « la vérité ne me concerne pas, elle ne m'intéresse pas ». Moi, je vous dirais « non, c'est faux, elle m'intéresse bien sûr la vérité ». Mais mon rapport à la vérité n'est pas ce qui guide mon métier. Et c'est en cela que mon métier est par définition à la fois sulfureux et passionnant. Parce que si je vous défends, si je recherche la vérité, c'est que je veux vous juger. Et si je vous défends, je n'ai pas à vous juger. Au contraire, j'ai à être votre dernier juge. J'ai essayé d'obtenir pour vous la meilleure décision possible. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de cela. Est-ce que pour autant, pour être avocat, il faut manquer de vertu? Non, au contraire. Car je crois qu'il faut avoir une intégrité particulière pour pouvoir être capable de cet exercice. Mais je ne vous dis pas que ça, il n'y a pas une part de jésuitisme, même si c'est quelque chose qui est bien loin de mon éducation et de ma nature, dans le cerveau d'un avocat. La rhétorique d'avocat est particulière, vous savez.
Maître Hervé Temim, secret défense, on continue d'en parler. On va parler dans un instant de Paul Bismuth et d'Éric Dupond-Moretti, après une pause.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Avec l'avocat Hervé Temim qui signe Secret Défense chez Gallimard. Hervé Temim, vous venez de nous parler de votre rapport à la vérité, rapport ambigu, avez-vous dit. Ce qui n'est pas le cas de la presse. Vous ne pouvez pas demander aux journalistes de respecter la logique du secret qui est celle des avocats, vous en convenez?
Oh ben, évidemment. On n'a pas du tout la même fonction. Bien sûr, j'en conviens, mais les journalistes ont un secret qui est parfaitement protégé et qui me paraît tout à fait nécessaire, c'est le secret des sources. Moi, je demande à ce que le secret professionnel des avocats soit aussi bien respecté qu'on respecte le secret des sources. Mais la fonction du journaliste n'est pas la même que celle de l'avocat. Elles peuvent parfois se rejoindre.
Mais vous reprochez aux médias, aux journalistes, d'être souvent irresponsables dans leurs publications.
Oui.
Pour quelle raison?
Parce que Vous savez bien, tout le monde le constate, aujourd'hui, il suffit qu'une accusation soit portée publiquement pour que la plupart des lecteurs ou l'opinion considèrent que l'accusation est fondée. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de place aujourd'hui pour la nuance et très peu de place pour ce qu'on pourrait appeler encore la présomption d'innocence. Et donc, je pense que dans bien des cas, la responsabilité des médias, je suis totalement défavorable à un conseil de l'ordre ou à une espèce d'organisme déontologique pour les journalistes, mais la responsabilité des médias, c'est souvent de publier ou pas une information quand c'est une accusation. Et j'ai constaté dans beaucoup de cas que des publications, à mon avis, auraient pu être évitées parce qu'il y a des affaires dans lesquelles les publications sont faites, la justice intervient, mais c'est trop tard.
Vous pensez à Roman Polanski?
Je pense à une affaire qui concerne Roman Polanski, une enquête du Parisien, qui est une enquête très intéressante et où je dis que la responsabilité de publier, c'est ça qui fait la décision majeure contre Roman Polanski.
Sur une supposée victime qui s'est fait connaître 35 ou près de 40 ans après.
Absolument, une affaire. Alors voilà. La responsabilité, elle appartient aux journalistes, elle appartient au directeur de la publication. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, je dis que cette responsabilité, elle est énorme, elle est essentielle. Et je crois d'ailleurs que les journalistes en sont conscients. Et ce que je dis, c'est que quand on publie dans ces conditions, il faut qu'on fasse une enquête irréprochable. Il faut qu'on laisse la moindre part au doute, car la moindre part possible au doute, car on sait qu'il n'y aura pas, dans des affaires prescrites comme celle-ci, il n'y aura pas d'enquête policière ou judiciaire possible. Donc attention, là, la responsabilité du journaliste est énorme parce qu'il se mue, en quelque sorte, en policier et en juge, avec une opinion qui, pardon de le dire, et tout le monde le sait, est très peu accessible à la contestation de l'accusation, d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit.
Pour ces opinions-là et pour certains de ces combats-là, vous avez un allié haut placé, Hervé Temim, Éric Dupond-Moretti, qui a été espionné, lui aussi, comme vous, dans l'affaire Bismuth, qui est désormais au sommet de l'appareil judiciaire. Ça vous réjouit, ça vous amuse, Ça vous intéresse de le voir là où il est aujourd'hui ?
Je pense d'abord que sur un plan personnel, ça m'a réjoui, parce que c'est une consécration pour un avocat que de devenir garde des Sceaux. Pourquoi ?
C'est pas forcément un parcours tracé.
Non mais attendez, loin de là. Je ne sais pas quel est votre panthéon, mais dans le panthéon d'avocats de ma génération, ouais, qui est celle d'Éric Dupond-Moretti, je suis un peu plus vieux que lui, le Graal, c'est Robert Badinter. Alors donc, notre modèle de réussite professionnelle, c'était lui. Donc c'est une consécration. Ensuite, c'est une fonction éminemment compliquée, dans laquelle il sait qu'il va se heurter à de nombreuses difficultés. Il y est déjà aux prises. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir un garde des Sceaux qui soit capable à la fois de défendre les magistrats et la fonction des juges, car il faut qu'il le fasse, et je pense qu'il va le faire et qu'il le fait à sa manière, mais qui soit capable de donner un peu d'aération aussi dans un monde extrêmement confiné.
Ah, c'est une très forte aération, puisqu'il veut en gros refonder l'institution judiciaire.
Non, non.
À défaut de supprimer l'école de la magistrature, la dynamité en nommant une avocate à sa tête.
Ouais.
C'est une bonne idée, Hervé.
Écoutez, déjà, on sait déjà qu'il ne pourra pas
refonder
l'institution. Non, mais et de loin. Alors, c'est une bonne idée. Ce qui est une bonne idée, c'est d'abord d'avoir nommé une femme. C'est la première fois, vous savez, que l'école nationale de magistrature existe depuis 58, c'est la première fois. C'est quand même assez étonnant. Et ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que connaissant les travaux de Nathalie Roret, c'est une femme qui est vraiment une femme d'ouverture, de dialogue, de consensus, qui respecte infiniment l'institution judiciaire et qui ne va certainement pas, si elle est désignée, présidée, diriger l'École nationale de la magistrature pour semer la discorde avec les futurs magistrats, au contraire.
Les juges sont très en colère, il y a une journée d'action aujourd'hui.
Oui.
Qui va gagner, les juges ou le ministre ?
Ah, je pense que il faut pas qu'il y ait de guerre, il faut pas qu'il y ait de parti, il faut pas qu'il y ait de compétition. Non, il faut que les choses s'aplanissent, il faut qu'elles se calment. Il y a pas de, on ne peut pas, si vous voulez, quand on est garde des Sceaux, on ne peut pas faire la guerre aux juges. Et c'est pas du tout ce qu'Éric Dupond-Moretti veut faire. Il l'a dit dès le départ. Il y a quand même une dirigeante. Je crois que les magistrats le cherchent depuis le premier jour. Ça, c'est quand même certain. Vous avez vu qu'une dirigeante, la représentante du principal syndicat magistrat a dit que sa nomination était une déclaration de guerre. Non, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Et il ne faut pas qu'il y ait de perdants. Et certainement pas les magistrats. Certainement pas. Mais il ne faut pas qu'il y ait de match. Il faut qu'il y ait une amélioration du fonctionnement de la justice. Et tout ça, finalement, peut accoucher de choses positives. On n'est pas au bout. Loin s'en faut.
Hervé Temim, Secret Défense, votre livre avec Marie-Laure Delorme paraît chez Gallimard. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous. Merci.